Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on va commenter le meilleur d'RMC ces dernières 24 heures avec Thibaut Texer, Perico Légas, Emmanuel Dancourt et Jérôme Lavrieux. On va commencer tout de suite avec un extrait d'Apolline Matin ce matin. L'insécurité est grandissante en France, en particulier à Nantes, où une femme de 40 ans s'est faite violer en pleine rue en rentrant chez elle samedi soir. Face à cette montée de la violence, faut-il se faire justice soi-même? Olivia, une restauratrice nantaise depuis 2004, a trouvé une solution. Elle a équipé ses employés de bombes lacrymogènes et de porte-clés alarme.
Depuis une dizaine d'années et plutôt 5 ans, vraiment, la ville est devenue un terrain de violence et d'agression envers toutes sortes de populations, et y compris notre personnel. J'ai mis en place une certaine chose, c'est-à-dire équiper tout mon personnel de bombes lacrymogènes, de faire des cours de self-défense et un petit porte-clés alarme qui fait 90 décibels de façon à alerter. On a été victime en fait de 3 agressions en une semaine, moi-même personnellement pour une soirée et pour le reste de mes employés les 2 autres jours dont j'étais présente le 3e jour également. Je me suis fait coincer par un individu avec une patinette électrique. Ouais. Et j'ai été agressée verbalement.
Alors c'est assez hallucinant ce qui se passe à Nantes, Perico Légas, parce que c'était une ville réputée plutôt tranquille jusqu'à l'année dernière, et là il y a une explosion de violence.
Et maintenant Nantes viole en plein jour. C'est-à-dire.
Non, c'était le soir. La dame rentrait chez elle.
L'agression en plein jour, on l'avait vu à Cannes la dernière fois.
Ouais, à Paris aussi. Ouais.
Ça veut dire que le sentiment, la délinquance existera toujours. Les brigands, les voleurs, et j'allais dire les criminels existeront toujours. Ça veut dire que le sentiment d'impunité dans ce pays est chaque jour plus libre, croissant. C'est-à-dire que les gens qui sont prêts savent que ils peuvent le faire. Que la sanction sera relative, qu'ils ont peu de chances de se faire avoir. S'ils sont attrapés, ils seront relâchés. Je veux dire, là aujourd'hui, il y a une déliquescence de l'autorité publique dans cette République française, au point qu'on est dans une situation de Far West. On a un ministre de l'Intérieur qui passe pour quelqu'un d'autoritaire, un président de la République qui a l'air conscient et soucieux, des premiers ministres qui ont toujours dit « c'est pas vrai, c'est dangereux de vivre en France ». Aujourd'hui, il y a des endroits.
Non, tu peux pas dire ça, Perico. Enfin, t'as d'autres pays où c'est quand même plus dangereux.
J'ai pas dit qu'il était dangereux de vivre tous les jours, toutes les 5 minutes, partout en France.
C'est ce que tu viens de dire.
Je vous dis aujourd'hui, car alors on va préciser nos pensées. Il y a aujourd'hui des endroits en France, à certains moments de la journée, ou dans certains endroits où il est dangereux de vivre en France. Cette femme n'aurait pas dû subir ça.
Mais bien sûr.
Voilà. Et tout ce qu'on entend. Et encore là, on entend ça parce que c'est la plus spectaculaire.
Non, on entend quasiment tous les
D'accord.
jours en ce moment.
Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Là, j'en interpelle tout parti politique confondu. Il se passe quoi? Vous voulez quoi? Vous savez comment ça va se terminer? Les gens vont avoir un comportement électoral un jour qui sera excessif par rapport à ce qui se passe, mais on le cherche. Et là, je comprends pas la démission de la classe politique. C'est une capitulation.
Ils ont été arrêtés, hein?
Mais bien sûr.
Et puis, c'était 3 hommes, ils ont été arrêtés.
Voilà. Et puis, pour ceux qui ont été arrêtés, ceux qui n'ont pas été arrêtés, ceux qui sont arrêtés pour moins que ça et qui sont relâchés, il faut voir dans quel état les policiers français qui font leur devoir de façon exemplaire, même si de temps en temps il y a une bavure, sont dépités. Mmh. Voilà. Et ensuite, la magistrature, évidemment, qui passe derrière et qui peut pas résoudre le problème non plus. Mmh. Et le problème des prisons. Voilà.
Alors, je voudrais revenir sur Nantes, qui est une ville que je connais vraiment très, très bien. Réellement. Et pendant 20 ans, Nantes, Rennes et Dijon se battaient à la tête du classement des villes où il faisait meilleur vivre en France. Et notamment pour des raisons de sécurité. Et Angers qui est dans le 4e, ouais. Et pour des raisons de sécurité. Et là, quand je vois ce qui arrive à Nantes, je dis que cette ville a bien changé. Et qu'en même temps, c'est pas se faire justice soi-même que d'équiper ses salariés pour qu'ils puissent se défendre. Enfin, moi, c'est pas quelque chose qui me choque, mais c'est quelque chose qui m'attriste parce qu'on en arrive là. Moi, je suis dans une ville où ça se passe encore pas trop mal, mais je me dis si ça arrive à Nantes, ça va arriver partout, quoi. Enfin, qui était une ville quand même où il faisait très très bon vivre. C'est symbolique que ce soit Nantes. Hein.
Mettre des caméras.
Jérôme Lavrieux, ça vous étonne, vous, cette explosion de violence? Et c'est vrai que par rapport au viol, là, il y a des affaires quasiment tous les 2 jours. Ouais. On entend parler de jeunes femmes ou de femmes qui rentrent chez elles à pied après une soirée et qui se font agresser de manière extraordinairement violente, quoi. Et on a l'impression que c'était moins le cas avant, quand même.
Mais parce qu'en fait, Perico nous parlait des délinquants, avec tous les guillemets qui s'imposent, dits traditionnels. Mmh. J'aime bien la tradition. Mais en fait, là, on a affaire à un nouveau public. On a dit qu'ils ont été arrêtés.
Oui.
On a dit un peu plus aussi, si j'ai bien suivi, c'est que c'était des gens d'origine soudanaise.
Oui. Et qui avaient un titre de séjour.
Qui avaient un titre de séjour.
Mais 2 étaient connus du service de police.
Ils n'ont rien à foutre là.
Bah, ils ont un titre de séjour valable, tu veux faire quoi?
Mais comment peut-on avoir un titre de séjour valable alors qu'on est déjà connu des services de police?
Ah, alors mais parce que tu sais que c'est difficile aujourd'hui d'expulser.
Mais non, mais ça c'est une autre chose. Comment peut-on continuer à toujours avoir un titre de séjour valable alors qu'on n'a pas respecté le contrat qui a été fait quand on a accordé un titre de séjour?
Parce que tu ne peux pas expulser. Là, la question.
Déjà, au moins, ils ne devraient pas avoir de titre de séjour valable. Je suis désolé, s'ils sont connus par la police, leur place.
Mais comme
elle est
tu ne pourras pas les expulser.
Mais leur place, elle est en CRA, Centre de Reconduction Administrative. De rétention administrative. Leur place, elle est là. Elle n'est pas dans la rue à se comporter, peut-être comme au Soudan, comme ailleurs, j'en sais rien, mais on est à Nantes. Et on fait, ça se fait pas, je suis désolé de le dire. On peut pas se comporter
mais
comme ça.
Aujourd'hui,
on
c'est eux, ne se comportent pas comme ça non plus au Soudan, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pas le, c'est
et
pas
une
le
autre
problème.
Fois, ce sera
mais non, mais ils ont rien à faire en France. Ils n'ont rien à
faire. Ils avaient le message de séjour valable.
Ils n'ont rien. Non, c'est pas vrai. Il n'est pas valable. Il a été donné par des gens qui sont pas responsables. Il n'est pas valable, ce type de séjour. Les fonctionnaires qui l'ont donné ont commis une faute.
Ça, on est d'accord. Aujourd'hui, mais à partir du moment où ils ont un titre de séjour valable, qu'est-ce que tu veux faire?
Connu par les services de police.
Oui, d'accord. Deux d'entre eux.
Aujourd'hui, bah, c'est eux, et puis d'autres fois, ce sera des Français. Enfin, le problème sera tout autre.
Non, je crois qu'on
en est
nouveau,
sur l'insécurité quand même dans les villes.
Non, je pense que si on n'analyse pas l'origine des phénomènes de délinquance, on a un sujet. On a un vrai sujet. Si on ne le fait pas, on a un vrai sujet. Et ce sujet-là est en train de monter dans la société. Et si on ne veut pas le voir, un jour, il sera trop tard. Et je pense que les gens responsables et raisonnables doivent le traiter en priorité. Ne pas laisser à des gens irresponsables et déraisonnables un jour à avoir à le traiter.
Les grandes gueules ce matin. La gauche est empêtrée jusqu'au cou dans les affaires de violence faites aux femmes. Ce week-end, Julien Bayot a démissionné de ses fonctions de secrétaire national Europe Écologie Les Verts. Et selon Barbara Lefebvre, ce déballage public n'est qu'un règlement de compte entre les membres d'Europe Écologie Les Verts, justement.
Non, on s'en fout pas parce que concernant Julien Bayou, ça ne repose sur aucune plainte, aucun dépôt de main courante. Ça repose sur la confidence qu'une ex-compagne fait à une concurrente politique à l'intérieur du mouvement Europe Écologie Les Verts qui s'appelle Sandrine Rousseau et qui se permet de venir raconter ça en public. Donc j'entendais ce matin Karim Adeli, je crois, qui expliquait qu'il y avait une enquête en cours dans leur truc de comité interne, je sais pas quoi, et que ce comité interne n'avait pas rendu ses conclusions et qu'il aurait mieux valu attendre les conclusions de leur comité interne. C'est compliqué, certes, mais en tout cas, oui, au minimum, qu'en interne, ils aient déjà réglé la chose, cette forme de déballage. Moi, je pense que c'est surtout des règlements de compte au sein d'Écologie Les Verts.
Emmanuel Dancourt, est-ce que Julien Bayou a bien fait de démissionner? Il a envoyé un communiqué ce matin en disant que de toute façon, en fait, il n'était pas audible et qu'il ne comprenait pas pourquoi il était mis en cause, mais de toute façon, il n'était pas audible sur ce sujet, donc il préférait démissionner.
Ça dépend de quoi on parle. Lui,
personne ne sait de quoi on parle.
Non, mais c'est pour ça que c'est un peu touchy.
Ça lui vient de savoir.
Il y a la justice et puis il y a la morale. Et que ce soit son affaire à lui ou l'affaire d'Adrien Quatennens, moi, ce qui me gêne là-dedans.
Adrien Quatennens, c'est un délit. C'est pas que la morale.
Tout à fait. Mais ce qui me gêne là-dedans, c'est malgré tout aussi la morale. Le fait qu'il n'ait pas démissionné de son mandat de député, moi, ça me choque. J'ai mis du temps à me faire un avis dessus, mais j'ai passé tout le week-end. Mais au final, ça me choque quand même parce que je me dis, c'est quand même des gens qui sont censés nous représenter. Et moi, pardon, je suis peut-être idéaliste, mais j'attends une exemplarité quand même de mes représentants, que ce soit mon député ou pas. Donc, je suis vraiment. Enfin, moi, je trouve que Sandrine Rousseau a eu raison de parler. T'es pas d'accord, tu le diras. Mais je trouve qu'elle a eu raison de parler, dire. Mais bien sûr que t'as le droit, je vais pas te bouffer. Mais qu'elle a eu raison de parler et de dire les choses que l'on sait.
Mais
si
non,
on fait pas.
Mais en fait, le problème, c'est qu'elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit.
Oh, bah, elle a dit quand même beaucoup de choses.
Elle a parlé
de la compagne Julien Bayou qui, quand même, est venue la voir, lui a raconté ce qu'elle avait subi et cette femme a fait une tentative de suicide après. Enfin, c'est quand même vachement.
Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit j'ai reçu l'ex-compagne de Julien Bayou qui était en détresse psychologique, qui a fait une tentative de suicide. Mais on ne sait pas. Pourquoi aujourd'hui Julien Bayou dit personne ne me reproche quelque chose qui tombe sous le coup de la loi. Donc en fait personne ne sait.
Donc aujourd'hui on écoute plus lui que la victime en fait.
Pas du tout.
Le problème.
Mais en fait on ne sait pas.
On écoute personne, on regarde les faits. Parce qu'on est dans un état de droit.
Attendons de savoir ce que les faits donnent. Attendons
de savoir.
Voilà, on y arrive.
Non mais.
C'est différent.
Moi je trouve qu'elle a eu raison. Non, je trouve qu'elle a raison de le dire et qu'il a raison de se retirer.
Mais il y a l'empreinte du soi, il s'agit.
Non. Je l'ai vu en direct.
Une tentative de suicide.
Je l'ai vu en direct quand elle a dit ça. Premier réflexe.
Je l'ai vu aussi, hein.
Pour moi, j'ai été un élu. c'était de me dire, elle nous dit qu'elle a reçu une personne
allez,
qui lui dit que ça va pas
bien. Les hommes se protègent entre eux. Vas-y, vas-y, Jérôme. Voilà. Les hommes se protègent entre eux. On se tient les couilles. Allez, vas-y, je t'écoute.
Oui, oui.
Bon, je dis rien parce que alors là.
Non, Emmanuel, tu peux pas dire.
Ah, vas-y, vas-y.
Non, mais c'est beaucoup ça. C'est vrai qu'on l'assiste en ce moment.
Tu réfléchiras ce que tu viens de me dire.
Excuse-moi.
Et tu trouveras que
c'est dans l'affaire Quatennens-Mélenchon, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc moi, je suis remonté comme un coucou.
Justement, on fait la différence.
Adrien Quatennens, c'est ça tourne sous le coup.
On est dans la mesure.
Je ne parle pas de Quatennens. Quatennens a reconnu quelque chose de délictuel.
Voilà.
Je suis bien placé pour le savoir. Dans ma vie, j'ai eu malheureusement le courage de reconnaître, ce qui n'a rien à voir avec tout ça. Hein,
oui, bien sûr, évidemment.
De reconnaître quelque chose de délictuel et j'en ai assumé toutes les conséquences. D'accord ? Là, on a une personne qui est en concurrence politique avec une autre, qui va sur un plateau télé et qui dit « J'ai reçu sa compagne, une de ses compagnes, dit-elle, qui est venue me dire qu'elle avait un problème avec lui ».
Donc tu penses que c'est un règlement,
non,
qu'elle
non,
était en détresse.
Elle allait pas bien, elle était en détresse. Et elle dit, comme ça, avec un sourire, d'ailleurs, je crois que 3 semaines après, elle a fait une tentative de suicide. Moi, je suis désolé, elle est élue de la République. Si elle reçoit quelqu'un qui ne va pas bien, qui lui parle de faits délictuels, les pressions morales, le harcèlement moral, etc., c'est délictuel. Elle a une obligation, sur le moment, à l'issue de son entretien, de faire un article 40. De transmettre le signalement au procureur de la République.
Elle
n'est pas, non, elle n'est pas experte, elle n'est pas juge, elle n'est pas conseillère conjugale, elle n'est rien du tout.
Elle est lanceuse d'alerte.
Non, la lanceuse d'alerte, il appelle le procureur de la République, il dit « Je viens de voir quelqu'un qui est en danger, peut-être en danger de mort de se suicider ». Il prévient le procureur, qui déclenche tout le reste après. Et là, elle vient nous dire 6 mois, 1 an, je ne sais pas, après, j'ai reçu quelqu'un, puis ah, bon, je sais qu'elle a fait une tentative de suicide.
Émission de grande écoute.
Je pense que c'est un règlement de compte de partie.
C'est mieux que ça.
C'est parce qu'il non, dit, je lui pose la question. Non,
Emmanuel, est-ce qu'il pense que c'est un règlement de compte? On ne sait pas de quoi il s'agit.
C'est pas un règlement de compte.
Sa propre justice, avec ses propres règles, avec ses propres comités secrets qui se réunissent, on ne sait pas s'ils ont entendu ou pas entendu, souffrait que peut-être cette personne, peut-être, n'est pas responsable de ce que sous-entend sa concurrente politique.
C'est même
le seul qui peut le dire à la fin, c'est le juge.
Oui, et après, aujourd'hui...
On l'a même pas entendu, elle.
Contrairement à Adrien Quatennens, qui a effectivement reconnu une
vie
qui est un délit, lui, aujourd'hui, Julien Bayou... Dire il y a pas de plainte contre Julien Bayou, il y a pas de main courante. Et aujourd'hui, en fait, on ne sait pas. En fait, on ne sait pas. Eh bien, tout ce qu'on sait, c'est que manifestement, son ex-compagne est en détresse psychologique et qu'effectivement, elle a fait une tentative de suicide, qui est évidemment extrêmement grave. Mais on ne sait rien d'autre, Emmanuel.
C'est 1793.
Comité de salut public.
Comité de salut public, tribunal révolutionnaire, les sans-culottes. Alors, il y avait des aristos salauds. Heureusement qu'il y a eu des sans-culottes pour dénoncer des gens qui avaient abusé, qui avaient exploité le peuple, qui étaient des complices de cette monarchie épouvantable. Heureusement qu'il y avait un tribunal révolutionnaire. Enfin, dans l'ensemble, on a aussi envoyé la guillotine. Beaucoup de gens, un peu précipitamment, un peu sur la médique populaire, un peu sur la désignation, avec des tribunaux qui duraient 2 minutes et qui disaient de façon médiatique, hop, citoyen, tu as dit, il paraît que tu as dit que...
Tu veux dire, c'est l'époque qui veut ça, en fait. C'est ça que tu essaies de nous dire.
Je pense que Sandrine Rousseau est en train d'appliquer un principe de nettoyage politique. Elle est en train de dégager tous ses concurrents. Elle a très mal vécu son élimination à la première écologiste. Elle est en train de dégager tout ce qu'elle peut dégager comme rival potentiel. Elle le fait bien. Elle est forte. Ce sera une grande présidente de la République. On aura l'italienne et on aura Sandrine Rousseau. Si un jour l'histoire fait ça. Voilà.
Perico, t'es obligé d'attendre. Il y a une enquête sur Julien Bayou.
D'accord.
En fait, t'es obligé d'attendre.
Je constate la formule, le protocole, la procédure. C'est ça la gauche. C'est ça l'écologie. C'est cette façon de faire, de montrer, j'étais en peinture, comme ça, en émission de grande écoute. C'est ça, mais ils sont fous, ils ont déjà
mais
pas
si
tellement...
Mais s'il a commis quelque chose de délictuel, tu fais quoi?
Mais les gens compétents pour le décider le diront. Et pas une émission de télé de grande écoute avec une parlementaire qui décrète qu'elle a déduit que le suicide était... Elle a peut-être totalement raison, je ne mets pas en cause. Je dis sur la façon de faire, au nom de la République, des valeurs démocratiques, elle est représentante du peuple lui aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le sans-culotte et le tribunal révolutionnaire.
Lui, pour toi, il n'a pas eu raison de démissionner. Comment tu veux qu'il soit audible aujourd'hui?
Son communiqué est édifiant. Il a dit, voilà, je n'ai pas le contenu exact de ce qui m'est reproché. Je ne peux pas me défendre, et si je me défends, je vais aggraver la chose, et je vais en plus compromettre mon parti qui est déjà tout touché, donc je me retire. Voilà. C'est ça la démocratie.
Et tu veux pas croire que c'est de la maladresse, éventuellement, de s'en
défendre? Je veux m'assurer que c'est pas d'injustice, et que tout est vrai, et que tout est assuré. Si c'est pas le cas, c'est la démocratie qui est malade. Très malade. Je veux que tout ça soit juste, soit légal, soit pensé, soit cohérent, respecte la personne humaine, qu'il y ait à la fois de la morale et du droit. Là, je n'y vois rien de tout ça. Je vois une invective, une injonction, un anathème et des têtes qui tombent. Voilà. Mais continuez. Hein. Pour l'instant, dans le camp adverse, il y a pas de problème. Autodestruction. J'ai jamais vu l'opération de suicide. Moi, je crois en ces valeurs. C'est ma sensibilité politique. De voir ces gens qui, pour moi, incarnent plutôt l'humanisme, la tolérance, le partage, la fraternité, se dénoncer comme sous Mao ou sous Staline du doigt et faire tomber les têtes.
Dénoncent parce que pour eux, il y a eu des faits très graves.
Nous sommes en République française. Je te jure qu'en République française, il y a des protocoles, il y a des procédures, il y a des institutions qui sont là et qui l'ont fait très bien et qui ont montré qu'elles étaient sans pitié. Oui. Et grâce au combat féministe, les tolérances et les laxismes et les silences sont tus. Et MeToo a fait un travail exceptionnel. Ne basculons pas dans un acte de liberté, d'émancipation de la femme et de conquête de la liberté. Ne basculons pas dans un totalitarisme qui va salir la cause des femmes.
D'accord, mais enfin, l'émancipation des femmes, elle est nécessaire. Et la parole
elle est urgente.
Libère, elle est nécessaire.
Mais là,
aussi.
On n'émancipe rien du tout.
À force de faire ça, on va tuer tout ça.
Évidemment.
À force de se comporter comme ça, je vous le dis.
C'est mortel.
Moi, je veux rappeler un problème de truc. C'est qu'il y a une constitution dans ce pays. C'est que... on est présumé innocent tant qu'on n'a pas été déclaré coupable. Et
quand présomption d'innocence, on va en reparler.
Quand il y a un procès, quand il y a un doute, le bénéfice du doute, il profite toujours à l'accusé.
Et c'est pour ça qu'on voudrait, qu'on passe à la présomption de culpabilité avec MeToo et qu'on arrête avec cette présomption d'innocence. Parce que ça va toujours dans le sens de celui qui est accusé. Nous, on voudrait aller sur ce qui se passe dans d'autres pays et qu'on soit sur la présomption de culpabilité.
La présomption de culpabilité, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de retour en arrière.
Toi, tu as décidé que ça ne marche pas. Ça marche dans plein de pays, Jérôme. D'un seul coup, ça ne marche pas parce que tu l'as décidé. C'est n'importe quoi.
La présomption de culpabilité, c'est la guillotine pour celui qui peut en être. Oui, parce qu'il est arrivé qu'on guillotine plein de coupables, mais il est arrivé qu'on guillotine des gens qui n'avaient pas fait ce qu'on leur avait
demandé. Arrêtez, mais on met deux siècles ou trois siècles en arrière. On est aujourd'hui, là, en 2022.
Je suis désolé de le dire pour des grands
erreurs judiciaires.
C'est le principe de notre justice. C'est qu'elle doit pas.
Quand la justice est injuste, on ne peut pas la faire changer. Les Espagnols, ils sont incroyables. Les Canadiens, ils sont incroyables.
Je suis désolé.
Mais là, cette affaire n'est pas devant la justice.
Elle n'est pas devant la justice.
Ça, on est d'accord. On est tous d'accord là-dessus. Je parlais juste de la présomption d'innocence.
Non, pas encore être trop.
La présomption d'innocence est une notion juridique. Tu ne peux pas l'utiliser s'il n'y a pas de justice, donc tu ne peux pas l'utiliser.
Mais là, il n'y a pas d'affaire.
C'est une notion juridique. Mais alors, arrête de parler de présomption d'innocence, parce qu'il n'y a pas d'affaire.
Mais c'est une notion juridique.
Il n'y a pas d'affaire. Qu'on nous dise ce qu'il a fait.
On ne parle ni de l'un ni de l'autre.
Mais qu'on nous dise
en même temps.
On ne parle ni de l'un ni de l'autre.
Qu'on nous dise ce qu'il a fait.
D'accord. Non, mais on est tous d'accord là-dessus.
On a le droit de parler. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Ce sera un monologue.
La présomption d'innocence, en même temps.
Je veux juste dire qu'il y a une obligation de prise en compte de la parole immédiate de tout le monde par la justice. Ça, c'est obligatoire, ça ne s'est jamais fait auparavant. Les choses sont en train de changer, c'est bien. Et une fois que ça se fait dans ce domaine-là, on doit laisser les choses se faire. Mais on ne peut pas livrer un jour en pâture le nom de quelqu'un ou de quelqu'un.
On doit laisser les choses se faire. Dans l'affaire PPDA, si on avait laissé les choses se faire, il ne se passerait rien. On a été obligé de monter au combat, on a été obligé de monter au créneau. On est 30 à aller à la police, on est encore 90 qui s'y sont pas allés. Donc on est en train de faire changer la justice. On est en train de faire changer la justice. Oui, mais on ne peut pas laisser la justice faire. La justice, elle a été complètement dépassée par notre cas. Elle ne savait pas faire.
En humanisme français, on préférera toujours, quoi qu'il advienne, quel que soit le sort de cet univers, un innocent. Bon. Un innocent. Enfin, on préférera toujours un criminel en liberté
qu'un innocent en prison. Bah oui.
En tout cas, on ne réglera pas le problème comme ça en 5 minutes. Mais de toute façon, je pense qu'on devrait savoir quand même bientôt de quoi est accusé Julien Bayou, puisqu'il dit qu'il prépare sa défense justement en se mettant en retrait d'Europe Écologie Les Verts. Dans un instant, RMC s'engage pour vous avec des révélations concernant l'affaire des implants contraceptifs de chez Bayer. On vous en avait parlé il y a quelques semaines. Et ça revient sur le devant de la scène. On vous explique tout dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.